de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et modernisée. L'arbitre suivante, magazine culturel, l'Indonésie en couleur. Et avant de terminer cette émission, vous allez écouter également une chanson indonésienne. Voilà notre programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie est réélu membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Les énergies renouvelables contribuent 85% de l'approvisionnement mondial en 2040. Les négociations commerciales entre l'Indonésie et la Corée du Sud ont été substantiellement réglées. L'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture, ou l'OAA, apprécie l'indépendance du programme d'alimentation en poisson indonésien. PT Waskita Karya a remporté un prix mondial de 4-3 à Las Vegas. Des centaines de touristes assisteront au festival maritime de Raja Ampat. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. L'Indonésie est élue membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2020-2022 après avoir recueilli 174 voix lors du scrutin qui a eu lieu jeudi au siège des Nations Unies à New York. La ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré que l'Indonésie avait déjà été membre du Conseil des droits de l'homme à 4 reprises. C'est un mandat et une preuve de la confiance de la communauté internationale en l'Indonésie. L'Indonésie, en tant que membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, lui permet de participer activement et de déterminer l'orientation de la discussion sur une question, de lutter directement pour les intérêts nationaux et protéger la souveraineté de la République d'Indonésie. La confiance de la communauté internationale envers l'Indonésie est une reconnaissance de la crédibilité de l'Indonésie dans ses efforts pour promouvoir et protéger les droits de l'homme à différents niveaux. Les énergies renouvelables et le gaz naturel devraient devenir la plus grande source de production d'électricité mondiale en 2040. Le pourcentage d'approvisionnement énergétique produit par ces deux sources atteint 85%. Cela a été dit par Spencer Dell, l'économiste en chef du British Petroleum Group dans British Petroleum Energy Outlook 2019 à Jakarta Session, à Jakarta, du sud mercredi. Selon lui, la transition énergétique évoluer rapidement dans les années à venir, notamment l'énergie faible en carbone. C'est une demande dans une économie mondiale durable. Comme Antara l'a cité, la concurrence commerciale aura également un impact majeur sur le marché de l'énergie, notamment si la concurrence augmente. Pour la région asiatique, la demande en énergie augmentera environ 3 fois en 2040. Le secteur industriel est le plus grand contributeur à la consommation d'énergie, environ 75% de la demande globale. En ce qui concerne les transports, la demande en énergie ralentira bien que l'efficacité des véhicules augmente. Le partenariat entre l'Indonésie et la Corée du Sud entre dans une nouvelle phase après 8 mois de négociations qui sont marquées par l'annonce du règlement substantiel de l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et la Corée du Sud, ou CEPA, en mars de l'ouverture du Salon indonésien de commerce à BSD Tangerang Banten mercredi. Comme rapporté Antara, la signature du règlement substantiel de négociation a été faite par le ministre indonésien du commerce, Enggartia Stolokita, et la ministre du commerce, de l'industrie et de l'énergie de la Corée du Sud, Yoo Myung-hee, et le vice-président Yusuf Kalla est témoin de cette signature. Le ministre Enggartia Stolokita a déclaré qu'au milieu de l'incertitude économique mondiale actuelle, l'Indonésie et la Corée du Sud avaient besoin d'une percée décisive pour encourager le commerce et l'investissement entre les deux pays, avant que l'économie puisse croître et apporter la prospérité aux deux pays. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture apprécie le programme relatif à l'indépendance des aliments pour poissons en Indonésie, considéré comme un bon exemple pour les pays de la région Asie-Pacifique. Stephen Rutgard, le représentant en chef de l'OAA dans une déclaration écrite reçue jeudi à Jakarta, a exprimé son soutien à l'Indonésie pour obtenir l'indépendance alimentaire du poisson. Selon lui, le succès du développement de l'alimentation animale indépendante en Indonésie peut être une référence au niveau Asie-Pacifique. Actuellement, l'Indonésie est considérée comme le premier pays au monde à donner une attention à l'indépendance des aliments pour poissons qui est réalisée par la communauté. Les activités d'alimentation indépendante sont très appropriées avec l'enthousiasme du monde pour améliorer la sécurité alimentaire, réduire la faim en fournissant des aliments sains conformément au thème de la Journée mondiale de l'alimentation. PT Waskita Karya TBK a remporté le prix comme meilleure entreprise qui s'est engagée et a mis en œuvre la santé et la sécurité au travail au niveau mondial. Le vice-président senior de la division de qualité, de santé et de sécurité de Waskita Karya, M. Subkan, dans sa déclaration à Jakarta mercredi, a affirmé que Waskita représentait des sociétés indonésiennes et était la première et la seule entreprise d'État à obtenir le prix de K3 à World Safety Organization. Le prix a été donné lors de la 32e édition du Symposium annuel international de développement professionnel de la sécurité et de la santé au travail, organisé par l'Organisation mondiale de la sécurité à Las Vegas, Nevada, aux États-Unis récemment. Des centaines de touristes étrangers et nationaux assisteront au festival maritime de la Régence de Raja Ampat dans la province de Papouasie-Occidentale du 18 au 23 octobre 2019. Le chef du bureau du tourisme de Raja Ampat, M. Yusdi Ramatingo à Waisai, a annoncé récemment que le festival maritime organiserait un voyage organisé ou des visites spéciales organisées par G-Tour Travel et l'Association de guides indonésiens de la Régence de Raja Ampat. Yusdi Ramatingo a déclaré qu'environ 200 touristes nationaux et étrangers rejoindraient le voyage organisé, animeraient le festival maritime et visiteraient les destinations touristiques naturelles des îles Fam et de la baie de Mayalibit. Le gouverneur de la Papouasie-Occidentale a publié une lettre dans laquelle il était indiqué que la Papouasie-Occidentale était en sécurité et que les touristes pouvaient venir en Papouasie-Occidentale pour visiter Raja Ampat. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
5 heures après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et encore le titre. Y aura-t-il un nouveau scénario pour de nouveaux ennemis entre la Chine et les États-Unis? Les tensions entre la Chine et les États-Unis ne sont pas encore apaisées. Pendant ce temps, les deux superpuissances ont été en conflit à cause d'une guerre commerciale. Récemment, de nouvelles tensions sont apparues, d'où que le Parlement américain a adopté une loi sur Hong Kong. Le Parlement américain a adopté la loi sur les droits de l'homme et la démocratie à Hong Kong. Bien que le président des États-Unis, Donald Trump, n'ait pas encore approuvé cette loi, cette décision du Parlement américain a suscité de vives critiques pour son intervention dans les affaires intérieures de Hong Kong. Cela a commencé avec l'arrivée de Joshua Wong, dirigeant des activistes chinois favorables à la démocratie aux États-Unis il y a plusieurs mois. Wong s'est notamment rendu au Parlement américain pour demander son soutien à la démocratisation de Hong Kong. Il a exhorté le Parlement américain à adopter une loi spéciale pour Hong Kong. Le 15 octobre 2019, le Parlement américain a officiellement adopté la loi des droits de l'homme et la démocratie de Hong Kong. Cette loi permettra au gouvernement américain d'avoir accès à la politique à Hong Kong pour justifier ce que la nécessité d'un changement d'attitude pour les villes ayant des entités commerciales différentes de la Chine continentale. Hong Kong fait partie de la Chine, cependant le territoire de cette ancienne colonie britannique a la loi et le système économique différent de ceux de la Chine en paix de système. Bien que la Chine ne soit pas une démocratie, à Hong Kong, ce système est garanti. C'est également une condition lorsque Hong Kong s'est séparé de la Grande-Bretagne en 1997. À travers une loi adoptée par les États-Unis, le gouvernement dirigé par le président Donald Trump peut juger si la Chine a érodé la liberté civile et la primauté du droit de Hong Kong, comme a été protégé par les lois fondamentales de Hong Kong. Dans cette loi, toutes les personnes responsables d'enlèvement et de torture de personnes sous le prétexte des droits de l'homme internationalement reconnus et interdites par les États-Unis seront passibles de sanctions. Même les citoyens de Hong Kong peuvent obtenir un visa des États-Unis. Au Parlement américain, cette loi est soutenue par le Parti démocrate et le Parti républicain. Le Parlement américain a également adopté la loi de protection de Hong Kong. Il a été conçu pour empêcher l'exportation d'armes de contrôle de masse telles que les gaz lacrymogènes et les balles en caoutchouc. La loi stipule que cela est inutile et disproportionné. Même les exportations d'armes doivent être approuvées par le Sénat américain. Bien sûr, la chose importante à surveiller est la façon dont le gouvernement chinois se comporte avec le mouvement américain. Beijing était en colère et le ministère chinois des Affaires étrangères a souligné que Beijing n'hésitait pas à détruire les intérêts économiques américains à Hong Kong. De plus, le gouvernement chinois préparera des contre-mesures et exhortera le gouvernement de Washington à cesser de discuter des lois régissant Hong Kong. La question se pose de savoir s'il y aura un nouveau scénario pour de nouveaux ennemis entre la Chine et les États-Unis. C'est retour, c'était le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 18 octobre. Le 18 octobre 1931, Thomas Alva Edison est décédé. Thomas Alva Edison est connu comme le plus grand inventeur de tous les temps. Le génie détient 1093 brevets en son nom, ainsi que des brevets dans d'autres pays. Les inventions d'Edison comprenaient principalement la production d'énergie, la communication de masse, l'enregistrement sonore et le film. Edison a cité son nom dans environ 425 brevets dans le domaine de l'éclairage et de l'électricité, le plus parmi d'autres. Cette invention, qui comprend des phonographes, des appareils photo argentiques et des ampoules électriques pratiques, durables et ayant un impact considérable sur le monde industriel moderne. Il a fondé le premier laboratoire de recherche industrielle. En 1890, Alva Edison fonda la société électronique General Electric qui a survécu à ce jour. Thomas Alva Edison est décédé le 18 octobre 1931 à l'âge de 84 ans. Thank you. Le 18 octobre 1967, Venera 4 a atterri sur Vénus. Venera 4 est un avion du programme Venera de l'Union soviétique destiné à l'exploration de la planète Vénus. Le Venera 4 a été le premier avion à mener des analyses environnementales sur d'autres terres planétaires. Cet avion est également le premier avion à atterrir sur une autre planète. Deux avions identiques, Venera 4, ont été lancés en juin 1967. Le premier, Venera 4, a été lancé le 12 juin par un Tiageli Sputnik. Le deuxième avion, lancé le 17 juin, mais qui a échoué à l'un des étages de la fusée, et n'a pu atteindre l'orbite terrestre, a pénétré dans l'atmosphère de la Terre que 8 jours plus tard. Le 18 octobre 1967, le premier avion Venera 4 a été lancé dans l'atmosphère de Vénus. Venera 4 fournit une analyse chimique de l'atmosphère de Vénus, montrant que son contenu principal est du dioxyde de carbone, avec plusieurs pourcentages d'azote, d'oxygène et de vapeur d'eau inférieure à 1%. Le 18 octobre 1989, le dirigeant S-allemand Erich Honecker a démissionné. Erich Honecker est un non-politique communiste allemand qui a dirigé l'Allemagne de l'Est de 1971 au 18 octobre 1989. Après l'union de l'Allemagne, il a demandé l'asile à l'ambassade du Chili à Moscou en 1991, mais a été extradé en Allemagne un an plus tard pour être jugé pour son rôle dans des violations des droits de l'homme menées par le gouvernement est-allemand. Toutefois, le procès ayant pris fin en raison d'une maladie, il fut libéré de prison en 1993 pour joindre sa famille en exil au Chili et y mourut en mai 1994. Cher ami, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Walau hanya dalam mimpi. tidak satu pun akan berlari. Mungkin telah letih berkacu di siang hari, ingin segera tidur dan dibelai mimpi-mimpi. Oh cuita malam, datanglah engkau membelai mimpiku. Antara aku berhayal denganmu, walau hanya
merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était une chanson intitulée Dans un rêve, chantée par Ermi Kulit. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Et voici mon Indonésie.
Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie et pour le titre, le Forum des affaires Indonésie d'Amérique latine produit un engagement d'investissement de 33,12 millions de dollars américains. Le Forum des affaires d'Indonésie, d'Amérique latine et des Caraïbes, INALAC, s'est tenu avec succès les 14 et 15 octobre 2019 à Tangerang, Banten. Le Forum des entreprises a produit des engagements d'investissement dans le secteur minier de 5 milliards de dollars américains ou équivalent à 70 trillions de rupiah pour les 5 prochaines années. Il a également été convenu d'un accord commercial d'une valeur de 473,68 milliards de rupiah, soit plus de 33,12 millions de dollars américains dans le domaine de la beauté, d'alimentation et des boissons, des pièces détachées, des produits en caoutchouc et des meubles. Le directeur général par intérim des affaires américaines et européennes du ministère indonésien des affaires étrangères, Tengku Faizasa, mardi a dit: le Forum d'affaires d'Indonésie, d'Amérique latine et des Caraïbes avait également produit plusieurs accords, à savoir la coopération de facilitation d'importation et d'exportation entre l'Institution indonésienne de financement des exportations LPEI ou Banque Exim Indonesia avec le Bancoldex de Colombie, le début du dialogue vers la formation de l'accord commercial Indonésie-Mercosur, l'ouverture du débat sur l'accord de commerce partiel entre l'Indonésie et la Colombie, ainsi que la coopération technique et le renforcement des capacités des communautés et des micro, petites et moyennes entreprises au Belize, au Panama et au Suriname. Jusqu'à présent, l'Indonésie n'a enregistré qu'un seul accord commercial avec des pays de la région, à savoir l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et le Chili, signé en décembre 2017. En outre, des accords de coopération ont été conclus entre LPEI et Balcomex du Mexique, signé en 2013, et la coopération entre la Chambre de commerce et d'industrie Kadin d'Indonésie et celle du Mexique, signée en 2018. L'Indonésie est en train d'initier des négociations commerciales avec le Pérou, l'Équateur, la Colombie, le Mexique et le Panama. Tengku Faizasha a déclaré que les réalisations globales du Forum INALAC est une réalisation de l'engagement de traduire les bonnes relations entre l'Indonésie, la région d'Amérique latine et les îles des Caraïbes dans une coopération économique concrète et bénéfique mutuellement. Selon lui, la mise en œuvre d'INALAC 2009 est conformément à la direction du président Joko Widodo pour augmenter les exportations vers les marchés non traditionnels en Indonésie. Il a ajouté que les résultats de ce forum continueront d'être suivis en 2020 et les années suivantes et deviendront un programme d'activité permanent de la Direction générale des Amériques et de l'Europe du ministère des Affaires étrangères. Serge Ritter, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Coba ikuti langkah dirimu, tertahan semua inginku. Meski ku harus kurangi egoku, tak ragu hati denganmu. Belum bisa ku mengerti apa yang kau beri, hingga ku cari jawabnya. Bahkan ku tak memahami maksud dirimu untuk jalani semua.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « À cause de l'amour » chantée par Greta. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, écoutons maintenant Magazine Culturel. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter un magazine culturel intitulé Pisang Mulut Bebek ou la banane à la bouche de canard, l'art des culinaires à Halmahera, les Moluques. On trouve couramment la banane à la bouche de canard à Halmahera, Ouest, et Alma Era du Nord. On l'appelle la banane à la bouche de canard parce que cette banane a une forme élancée et longue courte comme une bouche de canard. La couleur de la peau ne jaunit jamais, même si elle est mûre. Cette banane à la bouche de canard a une texture dure et croquante, dont le goût est aigri et sucré sans haute teneur en eau. On peut déguster cette banane pour remplacer le riz avec des accompagnements au goût salé et sucré. La banane à la bouche de canard, ou les Molucs l'appellent pisang mulu bébé, on peut également sauter pour le grignotant l'après-midi, accompagner la boisson bien aimée des habitants à Alma Era du Nord. Air Guraga. L'air Guraga est une boisson à base d'eau de gingembre et de sucre de palme saupoudre de noix. La banane frite provenant de la banane à la bouche de canard est très délicieuse. Comment faire de la banane frite à la bouche de canard? C'est très facile. Tout d'abord, coupez la banane et ensuite, frite la banane dans l'huile chaude. Puis, vous devez également préparer une verre d'eau mélangée à 2 cuillères de sel. Et ensuite, versez une cuillère d'eau salée sur la banane frite dans l'huile chaude. Faites frire la banane jusqu'à ce qu'elle soit vraiment croustillante. Après cela, prenez la banane croustillante et servez-la. Pour manger la banane frite à la bouche de canard, c'est incomplet s'il n'y a pas de sauce de dabu-dabu, une sauce typique des Molucs. Comment faire de la sauce dabu-dabu est également facile. Les ingrédients sont les tomates, les pommes, les piments, la pâte de crevettes grillée, un peu d'oignon et l'huile utilisée pour faire frire les bananes. Après que tout soit prêt, dégustez la banane frite à la bouche de canard et ajoutez la sauce dabu-dabu. Vous les mangez en continu. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta et merci d'être fidèle à notre antenne. Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Dis l'amour » chantée par Groovy. Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Maintenant, nous allons vous présenter l'Indonésie en couleur.
Bonsoir chers auditeurs, vous écoutez toujours The Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie. On se rencontre encore dans la rubrique l'Indonésie en couleur. Ce soir avec moi Audrey, dans cette édition, on a le sujet de ITB, Institut de la Technologie Bandung, développe une gestion des déchets au démarrage à l'aide de mouches de l'armée noire. Chers auditeurs, les déchets constituent toujours un problème grave qui doit être résolu, notamment en ce qui concerne son traitement. Partant de ces problèmes, les étudiants et les conférenciers de l'ITB ont été amenés à créer un démarrage de la Bioréfinerie Society BIOS spécialisée dans le traitement des déchets organiques. BIOS est un démarrage technosocial qui a pour vision de créer une bioraffinerie ou de transformer la biomasse en énergie renouvelable et en d'autres matériaux utiles à la vie des gens. Fait intéressant dans le traitement des déchets, le BIOS utilise des mouches de l'armée noire. La larve de mouche de l'armée noire elle-même est un type de mouche plus grosse que les mouches ordinaires et réputée pour sa capacité à consommer et à réduire les déchets organiques. Chers auditeurs, Bagus Muhammad Inderaja a expliqué en tant que fondateur, cofondateur et PDG de la start-up ou bien démarrage que le BIOS se concentre actuellement sur le développement du concept de bioraffinerie grâce à l'utilisation de larves de mouches noires riches en protéines destinées à l'alimentation animale. L'alimentation premium développée par BIOS a pour nom Magic Pet Feed. Il a expliqué que l'utilisation de mouches de l'armée noire présente des avantages par rapport au traitement des déchets classiques comme le biodigesteur ou le composteur. Le biodigesteur et le composteur prennent généralement beaucoup de temps. Dans les 6 semaines à 2 mois, de nouveaux déchets peuvent être traités. Avec les larves des mouches de l'armée noire, le traitement des déchets peut être plus rapide, jusqu'à 2 ou 3 fois plus. Chers auditeurs, le démarrage du BIOS a 2 excellents produits. Premier engrais pour les plantes et deuxièmement les larves sèches qui contiennent beaucoup de protéines. Le BIOS a même réussi à traiter des déchets de près de 150 kg pendant 6 mois à compter de février 2019. Les larves riches en protéines produites contiennent une très haute teneur en protéines et conviennent parfaitement aux poissons d'ornement et aux aliments pour animaux domestiques comme les tortues, etc. Dans le même temps, en ce qui concerne les engrais produits par le BIOS, a déclaré Bagus, il a également été inclus dans les normes SNI. Cependant, le produit n'est pas encore entré sur le marché car le BIOS tente de continuer à se développer. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur sur l'ITB développe une gestion des déchets au démarrage à l'aide de mouches de l'armée noire. On se rencontrera demain avec le sujet différent. Merci beaucoup et au revoir.
C'était une chanson intitulée La vieille station, chantée par Heho. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter une chanson indonésienne.
Bonsoir à tous. Vous écoutez maintenant la rubrique magazine musical. Ce soir, je vais vous présenter une chanson de la région de Sumatra du Nord intitulée Pisau Surit. Chers auditeurs, Pisau Surit est l'une des chansons, poèmes et danses culturelles de la tribu Karo illustrant un homme qui attend son amant. L'attente était très longue et triste. Ça décrit comme un oiseau pinchala, un oiseau à longue queue et qui chante bien, qui criait. Les oiseaux Pisau Surit chantent habituellement dans l'après-midi. Ce type d'oiseau en langue karo s'appelle pinchala. Le son est fort et répété avec un son du type Pisau Surit. Ce chant des oiseaux a inspiré un compositeur national de Tanah Karo, Jaga de Paris, du village de Seberaya dans le district de Karo. Cette chanson a également attiré l'attention d'une musicienne indonésienne, Vicky Sianipar, qui a réarrangé la chanson en lui donnant une touche de modernité. Bon, chers auditeurs, c'est Vicky Sianipar avec Mega Siombing, avec Pisau Surit.
Pisau Surit, Pisau Surit. Voice of Indonesia.
Chers amis des quatre coins du monde, c'est l'émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.